RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Comment la France peut-elle continuer à vivre en paix dans le contexte de la guerre en Ukraine, des déclarations de Macron et de Poutine à la fois? On se demande ce matin dans Je pense donc j'agis si on peut vraiment être rassuré de la protection qu'offre l'OTAN. À quoi sert d'ailleurs cette organisation du traité de l'Atlantique Nord? Sera-t-elle vraiment efficace pour défendre les pays membres contre une agression? On va en parler avec nos invités. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'adage « Civis pacem parabellum »? Si tu veux la paix, prépare la paix. La guerre. Croyez-vous en l'OTAN comme un rempart ou craignez-vous que le jeu des alliances nous emmène là où nous ne voudrions pas aller, c'est-à-dire en guerre? Seriez-vous prêt à payer plus d'impôts pour augmenter l'effort de la guerre? Et suivez-vous les négociations diplomatiques internationales? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et dans la seconde partie de l'émission, on verra comment mieux découvrir, comment mieux faire connaître nos institutions en France. Ce sera à 10h. Mais comme chaque mercredi, j'ai le plaisir d'être avec Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, c'est une question qui traîne dans beaucoup de têtes en ce moment, celle de la sécurité de l'Europe et plus particulièrement de la France. La guerre en Ukraine a reposé une question ancienne. Comment contenir Moscou? Comment s'en protéger? Alors parmi les réponses, il y a l'OTAN, l'organisation du traité d'Atlantique Nord, une organisation à laquelle la France appartient et qui est une alliance politico-militaire avec d'autres pays d'Europe et du nord de l'Amérique. L'objectif depuis 1949, se protéger mutuellement contre toute menace. Et si nous en parlons, c'est parce que la guerre en Ukraine fait planer une peur sur d'autres pays. Le président russe Vladimir Poutine martèle que s'il a envoyé des troupes en Ukraine en février 2022, c'est pour protéger les intérêts russes et pour empêcher l'Ukraine de devenir une menace pour sa sécurité en rejoignant l'OTAN. Alors, si on regarde la carte, d'autres pays frontaliers avec la Russie ont déjà rejoint l'OTAN, notamment des anciens pays de l'espace soviétique comme les pays baltes. D'où viennent les interrogations? Alors, question, le risque d'un conflit direct entre la Russie et l'OTAN est-il à prendre au sérieux? Eh bien, c'est ce que nous allons chercher à comprendre aujourd'hui.
Oui, avec nos trois invités, Madeleine qui nous accompagne jusqu'à 10h.
Avec nous, André Brigaud, bonjour.
Bonjour.
Vous avez longtemps été enseignant à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et à l'école militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Vous êtes aujourd'hui associé à Justice et Paix. C'est une ONG encouragée par l'Église de France qui porte une réflexion sur ces questions de droits de l'homme en temps de paix et en temps de guerre. Avec nous également Xavier Pacrot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes internationaliste, maître de conférence sur le campus parisien de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, où vous dirigez la licence européenne de droit trilingue et un master franco-allemand et européen, et tout cela en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Passau en Bavière. Avec nous également André Filière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'espace post-soviétique, notamment des Pays-Baltes, et vous exercez au sein de l'Université Paris 8, et avec vous trois, on va essayer de revenir sur l'OTAN et notamment mieux comprendre son rôle. Alors, est-ce qu'on peut dire que la guerre en Ukraine a réveillé l'OTAN de son sommeil, Xavier Pacrot? Est-ce que l'OTAN a été réveillée et l'a fait revenir à sa raison d'être? Comment un renforcement de la posture de défense de l'Ukraine? Est-ce qu'on retrouve un renforcement de cette posture de défense de l'Alliance?
Alors oui, tout à fait. Il y a encore peu de temps, le président Macron faisait le constat d'une mort cérébrale de l'OTAN. Il faut avouer que l'intervention de la Russie en Ukraine, l'agression de la Russie à l'égard de l'Ukraine, a ressoudé et redonné vie en quelque sorte à l'OTAN, a généré une véritable prise de conscience aussi de la nécessité de cette alliance face à de nouvelles menaces et à aussi de nouvelles formes de conflits qui s'imposent aujourd'hui à nous, c'est-à-dire plutôt des guerres d'attrition, des guerres longues compliquée à mener et coûteuse. Et donc, oui, il y a véritablement une évolution et cela aussi a conduit à un élargissement de l'OTAN puisque nous accueillons aujourd'hui deux nouveaux membres puisque la Suède et la Finlande font partie de l'OTAN. Donc finalement, le président Poutine qui considérait que l'OTAN était une menace a, par son action, par son agression, renforcé l'ennemi qu'il essayait de conjurer. Donc, en réalité, aujourd'hui, l'OTAN est bien vivante, elle est très active et elle joue un rôle central dans la défense des pays européens, à savoir que d'autres pays sonne à sa porte aujourd'hui et souhaiterait bien y intégrer, tels que la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine et la Géorgie.
Oui, André Brigaud, on entendait Xavier Paquereau rappeler que l'OTAN, c'est d'abord une organisation de défense. C'est important de bien l'avoir en tête.
Enfin, l'OTAN, c'est d'abord une alliance et deuxièmement une organisation. Donc, en matière d'alliance, c'est une alliance politique, donc avec des États qui partagent théoriquement des objectifs et on peut peut-être dire des valeurs proches. Deuxièmement, c'est une organisation et l'organisation, c'est une organisation militaire. C'est une organisation qui se prépare sans cesse à une défense ou parfois à des opérations. Et cette organisation, eh ben, comme toutes les organisations, elle a des difficultés. Elle a évolué dans le temps. 75 ans, c'est pas mal. Et donc, il y a eu des périodes. Et des périodes différentes. Et comme le disait M. Paquereau, il y a effectivement, depuis l'agression russe en Ukraine, une transformation des attitudes de l'OTAN et une transformation vis-à-vis de l'OTAN et des questions qu'on ne posait plus beaucoup finalement.
Alors, de quelle transformation vous voulez parler et de quelles questions, justement on parlait de réveil et de sommeil, quelles sont les questions qui sont revenues justement à l'ordre du jour? Quelle transformation d'abord de l'OTAN engendrée par l'agression de la Russie en Ukraine?
L'Alliance Atlantique et son organisation militaire, l'OTAN, ont été au départ faites contre l'URSS. Il s'agissait de garder les Américains en Europe, les Russes hors d'Europe et les Allemands à terre. Bon, c'est-à-dire ne pas avoir de risque nouveau de guerre. Ça a duré une vingtaine d'années, cette affaire. La deuxième grande date, je crois, c'est la fin du RSS. C'est 90. Autour de 90, au fond, il y a eu un choix. Est-ce que, puisque le pacte de Varsovie, qui était l'adversaire de l'OTAN, disparaît, doit-on faire disparaître l'OTAN ou le remplacer par quoi? Au fond, la réponse, je dirais occidentale, n'a pas été très, très claire. Et surtout, il y a une institution qui s'appelle l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui essayait de faire un lien entre les deux et d'organiser une sécurité qui a été, je dirais, sacrifiée. Comme les Russes n'étaient plus très costauds, ils ont accepté pendant 10-15 ans. Et puis, il y a eu, je dirais, une troisième période, c'est que l'OTAN a commencé à servir. Ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, servir concrètement au Kosovo, sur le terrain, au Kosovo, en Irak, en Afghanistan. Et donc cette période pour l'OTAN est assez nouvelle, parce qu'au fond, l'OTAN s'était fait pour protéger les territoires des alliés. C'était pas fait pour aller à Kaboul, théoriquement. Sauf si l'on disait que la menace était à Kaboul ou en Irak, ce qui reste à prouver. Et puis, je crois que, pour faire vite, Poutine a déclenché une quatrième période. A déclenché une quatrième période aujourd'hui où on voit que un certain nombre d'États qui souhaitaient pas rejoindre l'OTAN se disent que c'est quand même une assurance de sécurité. Et d'autre part, une période où on n'est pas sûr que ce qu'était devenu l'OTAN, c'est-à-dire l'organisation militaire, c'est-à-dire un réservoir de coalition, faire que des gens qui veulent agir sur le terrain se réunissent. Ils ne sont pas forcés de se réunir tous. On peut faire des coalitions restreintes, et c'est ce qu'on a vu. Alors, pour répondre à vos premières questions, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une tentation de la coalition otanienne, c'est-à-dire d'un groupe d'États qui déciderait d'intervenir en Ukraine, je pense qu'on n'en est pas là.
D'accord. André Filière, je voudrais vous faire agir sur le déclic donné par l'agression de la Russie en Ukraine. Est-ce que on a engagé une nouvelle étape, comme le disait André Brigaud?
Je pense que la périodisation de Monsieur Brigaud est parfaitement juste, mais j'aimerais quand même revenir sur la posture, non pas de l'OTAN, on en parlera, mais vis-à-vis de l'OTAN, et notamment de la part de la Russie. Je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler à nos auditeurs que la position de Vladimir Poutine, qui vient d'être réélu, pour ainsi dire, je mets beaucoup de guillemets autour de ce terme, il y a quelques jours, dimanche dernier, le 17, pour son cinquième mandat. Il y a eu un mandat intermédiaire où il était Premier ministre pour des raisons constitutionnelles. Vladimir Poutine a énormément évolué sur son attitude vis-à-vis de l'OTAN.
C'est-à-dire
Lors de son premier mandat, il le rappelle systématiquement, et ça crée une sorte de schizophrénie dans ses interventions. D'un côté, il considère l'OTAN comme une menace pour la sécurité russe et pour les intérêts vitaux de la Russie. De notre côté, dans toutes ses interventions programmatiques, il rappelle que la Russie cherchait à rejoindre l'OTAN et la Russie a un fond de non-recevoir. Et il est vrai que si l'on regarde le premier mandat de Vladimir Poutine, c'est-à-dire entre 2000 et 2006, on voit que, par exemple, l'élargissement de l'OTAN aux pays baltes, c'est-à-dire les anciennes républiques soviétiques partageant tous les trois une frontière avec la Fédération de Russie, n'a provoqué en Russie, ni dans la bouche de Vladimir Poutine, aucune réaction. Voire même, en préparant notre émission, je suis allé voir la presse russe de 2004, Vladimir Poutine déclare qu'il ne considère absolument pas l'élargissement de l'OTAN comme une menace existentielle pour la Russie, ce qui est corroboré également par le secrétaire à la défense américain de l'époque, Colin Powell. Donc, à un moment donné, il y a eu, et je pense que ce moment est 2007 et le discours de Munich de Vladimir Poutine, le début de son second mandat, à un moment donné, il y a eu quelque chose, et je ne saurais pas identifier clairement ce que c'était. Justement, vous parliez de déclic, Madame Battel, tout à l'heure. Je pourrais vous citer un faisceau de facteurs, mais l'intervention en Irak, notamment le fait que les Américains voulaient que les bases russes disparaissent de la Moldavie et de la Géorgie. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic véritable qui expliquerait ce revirement à 180 degrés? C'est très difficile à dire, mais je n'exclurais pas que ce ressentiment, au sens presque nietzschéen du mot, que la Russie avait été quelque part répudiée, pardonnez-moi le terme, par l'OTAN dans les années 90, Bill Clinton a récemment regretté qu'il n'avait pas œuvrer pour inclure la Russie au sein de l'Alliance Atlantique. Oui. Et ensuite, entre Vladimir Poutine et George Bush Jr., ce ressentiment, on sait, Monsieur Poutine, très rancunier, ce ressentiment, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais il est quelque part pour beaucoup dans ce changement d'attitude extrêmement brutal. Après, il y a toujours eu, évidemment, au sein de la diplomatie russe, des courants clairement anti-occidentaux, notamment avec l'arrivée encore à la période du président Yeltsin, du Evgeny Primakov à la tête du ministère des Affaires étrangères et ensuite à la tête du gouvernement russe et au moment des bombardements au Kosovo. Ça, c'est vrai. Mais bon, le tableau est beaucoup moins manichéen qu'on pourrait l'imaginer.
Et on va continuer d'en parler, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. À quoi sert l'OTAN? Vous avez la parole pour en discuter avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'adage « si tu veux la paix, prépare la guerre » Est-ce que vous croyez en l'OTAN comme un rempart ou craignez-vous que le jeu des alliances nous emmène là où on voudrait pas vraiment aller, c'est-à-dire en guerre? Est-ce que vous seriez prêt aussi, vous, à payer plus d'impôts pour augmenter l'effort de guerre? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec nos trois invités, Madeleine jusqu'à 10h, André Filière, Xavier Pacrot et André Brigaud.
Xavier Pacrot, je voudrais revenir sur le terme de l'Alliance, Alliance Atlantique Nord. C'est à la fois une organisation et aussi une alliance. Est-ce que cette alliance, elle a déjà été éprouvée? Et le précédent invité, Monsieur Filière, parlait de ressentiment de la Russie à l'égard d'une alliance. Intégrer une alliance, ne pas y être intégré, qu'est-ce que ça peut donner comme réaction finalement?
Alors, tout d'abord, l'OTAN est une alliance défensive de sécurité mutuelle. Elle se fonde notamment sur l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui concerne la légitime défense, qu'elle soit individuelle ou collective. Et justement, l'OTAN est une organisation régionale de sécurité qui permet une mise en œuvre de cette sécurité, de cette légitime défense collective entre différents alliés. Alors, il est vrai que dans les membres fondateurs, ce sont des pays européens, et d'ailleurs tout futur candidat doit appartenir au continent européen, sachant que la sécurité est assurée jusque dans l'Amérique du Nord, jusqu'à l'Amérique du Nord, puisque le Canada, les États-Unis en font également partie. Il s'agissait en effet, au lendemain de la guerre, d'arrimer les États-Unis à la question de la sécurité en Europe. Alors, concernant l'élargissement de l'OTAN, cela implique d'abord, bien sûr, pour les pays de respecter, ça a été évoqué tout à l'heure, un certain nombre de critères, notamment d'être un pays démocratique, respectant l'économie de marché, respectant les minorités, prêt à contribuer à l'effort militaire de l'OTAN. Enfin, voilà, tout un ensemble de critères que les États doivent respecter. D'ailleurs, le processus et normalement d'adhésion est assez long, même si on a vu une exception qui a été faite, notamment pour la Suède et pour les nouveaux candidats, la Suède et la Finlande. Donc, puisque ça s'est passé en un an.
C'est alors tout récent, ils viennent d'entrer
oui, voilà,
en mars.
Tout à fait. Tout à fait. Et alors que d'autres pays attendent depuis beaucoup plus longtemps, comme l'Ukraine, mais parce qu'elle ne remplit pas un certain nombre de critères, notamment les questions de corruption, les questions de ne pas être en guerre avec un État voisin. Enfin voilà, un certain nombre de critères qui ne sont pas remplis. Alors oui, c'est une opportunité pour ces pays. L'OTAN pratique pour les nouveaux adhérents ce que l'on appelle la politique de la porte ouverte. C'est inscrit à son article 10, l'article 10 du traité de Washington, qui fonde l'OTAN, l'Atlantique Nord. Et c'est la possibilité, donc, pour des nouveaux États d'intégrer l'OTAN. Alors, l'OTAN est intervenue, elle est intervenue dans différentes opérations, ça a été rappelé, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, de façon différente, hein, dans des formats différents et pour des missions différentes. Elle a aussi été mobilisée pour l'intervention en Libye qui avait été autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, également dans la Corne de l'Afrique, dans le Golfe d'Aden pour sécuriser à la fin des années 2000. Voilà, donc tout type de mission, savoir que l'OTAN coopère aussi avec l'Union africaine, avec d'autres institutions. Alors, il ne s'agit pas forcément, bien sûr, de mener des opérations militaires, il s'agit aussi d'échanger des pratiques, de coopérer, de maintenir une sorte de diplomatie en termes de sécurité aussi.
J'aimerais qu'on écoute Marc au 04 72 38 20 23. Bonjour Marc.
Bonjour. Je vais vous faire un petit regard sur ce que vous venez de dire un petit peu aussi, hein, parce que c'est par rapport aux droits de l'homme, justement.
Oui.
Donc, je suis pas du tout d'accord du slogan, si tu veux, la paix prépare la guerre.
Oui.
Moi, je pense qu'il faut...
Parlez bien dans votre téléphone, Marc, pardon, on vous entend pas très bien.
Je suis éloigné. Donc, je pense que la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne doit pas entacher notre humanité, notre dignité humaine, encadrée et inaliénable par les droits de l'homme. Donc, cette escalade due aux rivalités et négligences des droits, des devoirs liés aux droits de l'homme. Mmh. Donc, c'est des droits de l'homme qu'on doit soigner et on doit alimenter par des moyens qu'on a déjà en place, mais qu'on n'utilise pas assez, je suppose. Mmh. C'est vrai que pour l'UNICEF, etc., bon, je ne suis pas un spécialiste, hein. Mais à mon avis, l'avenir de notre humanité, de notre paix, de notre savoir-vivre, savoir-faire, c'est lié à soigner l'individu, à faire la paix et non la guerre.
Mmh. Eh ben, écoutez, Marc, merci beaucoup pour votre appel depuis la Haute-Savoie au 04 72 38 20 23. André Brigaud, je me tourne vers vous. Ce qui est attaqué, en fait, quand on parle de cette guerre, avant un pays, ce sont les droits de l'homme. Il a raison, Marc, de le rappeler.
Oui, alors, bien entendu, ce sont les droits de l'homme, mais le problème, c'est que si on parle d'organisation militaire, on va être envoyé à l'ONU, et à l'ONU, il n'y a pas de force militaire. Ou plus exactement, il y a des coalitions, mais on n'a jamais mobilisé un chef d'état-major à l'ONU. Ça pourrait se faire, ça serait légal, mais est tout à fait... possible, mais on le fait pas. Par conséquent, les choses sont ramenées aux nations et aux accords entre nations. C'est-à-dire que là, ou bien on dit l'Alliance Atlantique est un ensemble de gens, d'États qui ont des valeurs et ils les respectent. Mais alors il faut se demander pourquoi dans l'OTAN, la Turquie occupe depuis 40 ans Chypre du Nord. Deux pays qui sont dans l'OTAN et qui ne respectent pas les valeurs.
Alors oui, enfin, bah, si au moins. Oui, comment comprendre ça?
Comment comprendre ça? C'est que sous l'Alliance Générale et l'organisation technique, il y a, comme je le disais tout à l'heure, soit des coalitions, soit des intérêts particuliers qui peuvent aller jusqu'au conflit. Je n'ai jamais vu la preuve que en Irak on possédait des armes chimiques. J'ai jamais vu que il y a un lien direct entre il y avait un lien direct entre Ben Laden et les talibans à Kaboul. Il y a quelqu'un qui désigne quand même l'adversaire, l'ennemi. Et là, je crois qu'il faut quand même qu'on parle un tout petit peu des États-Unis. L'OTAN, c'est pas 32 membres, c'est un grand et 31. Au plus, un très grand, les États-Unis, deux autres puissances nucléaires, la Grande-Bretagne et la France, et puis différents États qui ont différents intérêts et qui participent ou non à un certain nombre d'opérations.
Oui, ça me laisse sans voix parce que j'étais en train de calculer. Je me disais, comment le poids se fait-il dans le cadre des décisions aussi qui sont prises pour intervenir? On a évidemment en arrière-plan les futures élections aux États-Unis avec la question du changement de constitution ou pas dans la participation de l'OTAN. Que va faire Donald Trump une fois si il est élu? Qu'est-ce qui peut se passer au niveau de l'OTAN? C'est aussi une question qui est un peu dans les têtes.
Alors, ça fait plusieurs années que les États-Unis, et pas seulement Donald Trump, manifestent un certain isolationnisme, ou plus exactement une question, c'est-à-dire les Européens, qui en réalité sont les financeurs à moitié, pour moitié, de l'OTAN. Bon, c'est-à-dire qu'on a un mythe, c'est-à-dire que ce serait les États-Unis qui paieraient tout. Non, on paye la moitié.
La plupart des pays sont en Europe aussi.
La plupart des pays sont en Europe, mais on paye la moitié. Je pense, deuxièmement, l'OTAN, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, une forme d'organisation militaire qui, quand il n'y a pas la guerre, fait des plans, parce que quand il n'y a pas la guerre, les militaires, ils font des plans. Et deuxièmement, ils font des normes. Et l'imposition de normes de tout type, c'est une activité très importante dans l'OTAN. Quand on a des normes, que ce soit les calibres ou que ce soit le bruit des moteurs d'avion pour qu'il n'y ait pas de tir fratricide ou que ce soit tout un tas de choses, c'est largement les États-Unis qui les imposent. Et deuxièmement, n'oublions pas qu'il y a le complexe militaire industriel aux États-Unis qui vend beaucoup de choses aux alliés et que le complexe militaro-industriel, je crois, saura dire à Trump, comme à d'autres, et comme il l'a fait depuis très longtemps, écoutez, c'est gentil, mais il ne faut pas trop se fâcher, parce que les Européens sont de bons clients, de très bons clients. Mmh. Et que, non seulement pour l'organisation des opérations militaires elles-mêmes, les États-Unis sont dominants, mais les intérêts économiques sont dans l'OTAN un élément très important.
Marquons une pause tout de suite dans Je pense donc j'agis. On va continuer d'en parler avec vous trois, André Brigaud, Xavier Pacroux et André Filaire. Et bien sûr, avec vos témoignages, tout comme Marc, il y a quelques instants, au 04 72 38 20 23, parlez-nous de l'OTAN. À quoi sert l'OTAN d'après vous? Est-ce que vous croyez en cette organisation comme un rempart? Ou alors vous craignez que le jeu des alliances nous emmène là où on voudrait pas vraiment aller, c'est-à-dire en guerre? Vous témoignez 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense, donc j'agis. On est à l'antenne, Madeleine. Vous parlez en même temps quand le micro est ouvert. On va écouter de la musique. Ça va vous laisser le temps de nous appeler pour témoigner et nous parler de l'OTAN au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien, qu'on devrait vivre sans penser à demain. Qu'on n'a pas le temps du malheur, qu'on n'a pas le temps pour le malheur. Tu n'as pas de livre sur ton étagère, tu ne connais ni ton nom ni ton père. Qu'on a le droit au bonheur, qu'on a le droit au bonheur. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Oh. Au fond de toi, tu es encore un enfant. Qu'il existe un endroit au bord de l'océan où le projet c'est l'espoir, où le projet c'est l'espoir. Tu dis qu'il faudrait débrancher des villes, qu'il suffit d'avoir un arbre quelque part, qu'on pourrait atteindre l'autre rive, qu'on pourrait atteindre la rive. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Ouh. Toute dernière chance avant que ne s'efface notre enfance. Qu'on a attendu le bonheur, qu'on a attendu le bonheur. Tu dis que nous sommes de cœurs solitaires, à passer cette vie sous une serre, à espérer dans le noir, à espérer dans le noir. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi.
Voilà, chanson de circonstance, un peu d'espoir avec le chanteur Raphaël.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos trois invités dans cette première partie consacrée à l'OTAN, André Brigaud, je rappelle que vous êtes politologue, Xavier Pacro, vous êtes internationaliste, maître de conférence sur le campus parisien de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, et André Filler, spécialiste de l'espace post-soviétique. Pardon. J'aimerais vous lire un message qu'on a reçu il y a quelques instants de la part de Guillaume. Comment l'OTAN évoluerait tel si Trump est élu en novembre, il semble proche de Poutine et ne souhaite pas spécialement soutenir l'Ukraine. Du coup, quel soutien pourrait-on en attendre de lui, en tout cas pour l'Europe? André Brigaud, je me tourne vers vous.
Xavier Pacro, peut-être.
Très bien.
Ne vous battez pas.
Voilà. Non, nous sommes pour la paix. On peut imaginer que l'élection de Donald Trump conduirait à un nouvel âge de l'OTAN, puisque différents âges successifs ont été présentés tout à l'heure, dans l'hypothèse où il mettrait à exécution une éventuelle sortie de l'OTAN. Bon, ça serait très compliqué pour les États-Unis et je ne pense pas que c'est tout à fait réaliste. Mais disons que sans sortir de l'OTAN, il pourrait faire dysfonctionner l'OTAN ou au moins limiter drastiquement l'engagement des États-Unis dans les opérations de l'OTAN et dans la garantie qu'elle peut représenter pour les États membres. Et de cette façon-là, déstabiliser profondément l'institution. Donc il n'y a pas besoin de sortir pour les États-Unis, il suffit. Le président a suffisamment d'autorité pour cela, pour faire dysfonctionner l'alliance. Donc en effet, cette perspective doit être prise en compte, même si l'on doit quand même prendre aussi en considération que le président Trump, Donald Trump est quelqu'un d'assez changeant, qui peut de disruptif et qui peut du jour au lendemain inverser sa position à l'égard de la Russie. Il promet de régler le conflit en Ukraine en 24 heures. Si jamais il n'obtient pas succès attendu, peut-être qu'il revirera complètement sa position. Il est très difficile de prévoir les choses. C'est un peu comme la météo avec Donald Trump. Il est difficile de faire des prévisions à long terme ou à moyen terme. Donc, c'est un événement important, mais c'est un événement aussi qui doit conduire les États européens à réfléchir sur leur sécurité et au fait de ne pas avoir à dépendre exclusivement de l'Alliance et d'avancer sur l'idée d'une défense européenne. Nous en sommes encore très loin et nous avons beaucoup de difficultés à nous entendre. On voit bien que même le couple franco-allemand, qui est traditionnellement deux États très proches et qui mènent un certain nombre de projets qualifiés de moteurs de l'Europe, sur cette question n'arrive pas à avancer pour des questions culturelles sur le plan militaire, pour des questions d'histoire, de réflexes. Voilà, les États-Unis se sont toujours, les Allemands se sont toujours placés sous le parapluie nucléaire des États-Unis, considérés que leur défense était garantie par les États-Unis. Alors ils ont été un peu secoués au moment des déclarations du président Trump qui était très belliqueuse à l'égard de l'Allemagne et très négative à l'égard de l'OTAN. Donc ils se sont ressaisis, ils essayent d'investir beaucoup, mais on ne sent pas une volonté réelle de mettre en place une véritable défense européenne qui conduirait à une possible autonomie et de pouvoir prendre des décisions autonomes au sein de l'Europe. Et puis, une dernière chose, concernant les États-Unis, ils financent, c'est vrai, la moitié du budget, et cela leur donne un poids considérable dans cette alliance. C'est pour ça qu'on ne peut pas réfléchir sans les États-Unis et que beaucoup d'États conditionnent leur réaction en regardant les réactions potentielles ou en essayant de deviner les réactions potentielles du partenaire américain.
Alors, puisqu'on parle des poids des différents pays, André Filaire, je voudrais qu'on vous entende sur l'arrivée de plus petits pays. On le disait, il y a 32 pays, on était à 12 pays en 1949, on est aujourd'hui à 32 pays depuis le 7 mars, avec l'arrivée de la Suède, et puis en avril 23, c'était la Finlande. Mais avant, il y a eu aussi d'autres pays qui, par ailleurs, justement, étaient dans cet espace soviétique, ex-soviétique, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça peut changer, l'arrivée de ces nouveaux pays, André Filaire ?
Écoutez, je pense qu'il faut quand même qu'on rappelle la question fondamentale de l'OTAN. À quoi sert l'OTAN, justement? Tout à l'heure, on a dit que ça a été conçu en tant qu'une organisation d'une part et une alliance d'autre part, et que ça comprend un certain nombre de membres. Moi, je les diviserais en trois groupes, quelque part. Les protecteurs, donc les grandes puissances, et surtout les trois puissances nucléaires, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Les protégés, les pays qui pourraient effectivement se sentir menacés, à l'époque, par l'URSS, ensuite par une menace assez diffuse jusqu'à 2007, et à partir de 2014 et a fortiori de 2024, lorsque la Russie, pardonnez-moi, avait annexé la Crimée et a entamé son invasion, son agression contre l'Ukraine, par de nouveau, par le mouvement pendulaire, la Fédération de Russie. Et puis il y a des alliés tactiques qui parfois qui sont membres de l'alliance, qui parfois ne correspondent pas aux critères tout à fait, comme la Turquie, la démocratie, on peut se poser beaucoup de questions, le traitement de minorités, notamment les minorités kurdes, encore plus, et effectivement la question que mes collègues ont évoquée du Chypre Nord. Enfin, selon tous les critères formels, la Turquie n'aurait pas dû être membre. Or, elle est devenue tout simplement parce qu'il fallait contenir l'URSS, et la Turquie à l'époque partageait via la Géorgie, aujourd'hui indépendante, la frontière avec l'Union soviétique et bloquait le bassin pontique, le bassin de la mer Noire. Et le mécanisme de cette protection, ce sont les deux articles de la charte de l'OTAN. L'article 4, lorsqu'un membre se sent menacé existentiellement par une force tierce, on applique l'article 4, les consultations de tous les membres de l'OTAN. Et si ces consultations conduisent à constater qu'effectivement cette menace existe, on applique le fameux article 5,
oui,
où on applique la défense collective, c'est-à-dire que l'OTAN, dans son ensemble, se mobilise pour défendre un de ses membres dont la sécurité existentielle, la sécurité vitale est menacée. Donc l'élargissement, à mon sens, a été essentiellement de la part de ces États qui cherchaient à être protégés, l'Allemagne historiquement, mais par la suite, les États d'Europe centrale, les États du bassin baltique, dont les trois pays baltes, et dernièrement, les États scandinaves et même la Suède, qui avait rompu avec la tradition de plus de deux siècles de neutralité.
De neutralité,
c'est cette question qui se pose ensuite, est-ce que l'OTAN, de facto, va appliquer ces fameux articles 4 ou 5. Et là, je suis tout à fait d'accord avec M. Brigaud, sans l'accord des États-Unis, qui est aujourd'hui le bailleur le plus important et le complexe militaro-industriel le plus performant de l'OTAN, aurait du mal. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, le président Macron cherche à prendre la place du leader en tant que chef d'État d'un État d'une grande puissance nucléaire, où les États-Unis, déjà relativement isolationniste à l'époque Biden, risque de le devenir encore plus avec l'arrivée hypothétique de Donald Trump au bureau ovale.
Ouais, c'est ce qu'on a dit il y a quelques instants. J'aimerais qu'on écoute Christophe sur la Turquie, justement. Bonjour Christophe.
Oui, je me posais la question,
oui,
est-ce que l'OTAN a les moyens d'exclure un membre qui pose vraiment problème? Alors je pense effectivement à la Turquie qui a évolué vers une dictature, qui a un discours vraiment anti-occidental et qui mène à un double jeu. Et moi, je suis extrêmement choqué par le fait que la Turquie, à elle seule, ait pu faire des chantages auprès de la Suède pour que la Suède lui livre des prisonniers kurdes. Voilà. C'est pas à la Turquie de décider si la Suède entre dans l'OTAN. Quoi.
C'est une bonne question, Deb Christophe, et merci beaucoup de l'avoir posée sur finalement le pouvoir de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN a la possibilité d'exclure un pays comme la Turquie? Je me tourne vers vous, André Brigaud.
Juridiquement, je ne sais pas.
Alors juridiquement, sera Monsieur Pacro qui répondra peut-être. Mais en tout cas, ça pose la question des droits de l'homme aussi. Comment, si un pays change en cours de route, comment est-ce qu'on fait?
L'alliance est quand même très souple, vous savez. Je répète, l'OTAN, c'est des coalitions militaires. C'est la capacité de faire des coalitions militaires. Donc, c'est ça qui importe. C'est pas de savoir si chaque membre est démocratique ou pas. Et en fonction de quoi?
Ça fait partie des critères d'entrée, quand même.
Oui, ça fait partie des critères d'entrée. Mais enfin, vous savez, il y a des choses assez souples qu'on peut faire sur les critères d'entrée dans l'Union européenne comme dans l'OTAN. Bon, je voudrais quand même souligner que l'OTAN se porte finalement bien. Tous les États européens sont pro-OTAN, et je dirais aussi, y compris la France. Deuxièmement, on a posé la question de l'après-Trump ou de l'après-Biden. Si vous êtes un fermier américain, est-ce que franchement, ça vous intéresse beaucoup de venir défendre l'Ukraine? Deuxièmement, si le problème n'est plus en Europe, mais en Asie, s'il y a quelque chose entre Taïwan et la Chine, est-ce que c'est pas plus important pour les États-Unis que créer un no man's land entre la Russie et l'Ukraine? On peut vivre pendant longtemps avec l'Alsace-Lorraine ou l'Alsace-Moselle, et ça se termine mal, d'accord, mais ce sont des possibilités qu'il faut envisager. Donc, je dirais que, d'une certaine façon, la menace créée par Poutine est une bonne chose pour les États-Unis, pour l'OTAN, et une très mauvaise pour les Européens.
À quel prix aussi, oui.
Bonjour Daniel.
Bonjour, oui. Alors moi, je voulais dire, si je peux passer à la radio.
Oui, vous êtes à la radio, là. Oui, vous êtes.
Bon, alors, si vis pacem parabellum. Oui. C'est du latin, c'est ce que disaient les Romains, les gens de l'Empire romain, les empereurs romains. C'est-à-dire que l'Empire romain n'a vécu que par les armes. Systématiquement, il punissait les peuples qui se révoltaient contre eux. Donc ils avaient besoin d'une armée extrêmement puissante. Et si l'Empire romain a périclité, a chuté, c'est parce que l'armée n'y arrivait plus face aux ces historiques.
Alors, où voulez-vous en venir, Daniel? Où voulez-vous en venir?
Oui. Je veux en venir à ce que dire que le civis pacem parabellum, ça a été repris par les fascistes, et c'est carrément guerrier, c'est à tel point guerrier qu'il ne faut surtout pas envoyer des troupes au sol en Ukraine. Ce qu'il faut, c'est leur livrer des obus, parce qu'ils manquent d'obus. Ils veulent se défendre, ils veulent une Ukraine libre, mais ils sont un petit pays face à cette énorme Russie qui est armée jusqu'au dents.
Pour vous, c'est trop risqué. Hein. On l'entend, Daniel, dans vos témoignages. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner. Peut-être Xavier Pacro, est-ce qu'il a raison de dire ça, Daniel, que il faut pas prendre de risques, alors je vais pas dire inutiles, mais face à un pays qui est extrêmement puissant comme la Russie, ce serait trop risqué d'envoyer des troupes au sol?
Alors, tout d'abord, je rappelle que l'Alliance est une alliance, c'est une organisation défensive. Elle n'a pas vocation à partir en guerre contre la Russie. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Il n'est pas question pour l'OTAN aujourd'hui d'envoyer des troupes au sol. Et encore, le président Macron, c'est une déclaration du président Macron, mais qui a circonscrit très nettement cet envoi pour la mise en œuvre des matériels de haut niveau de technicité envoyé par la France. Donc il ne s'agit pas de... Pour l'instant, cela n'empêche pas d'avoir à réfléchir, parce que inévitablement, si Kiev s'effondrait, s'il y avait une percée fulgurante des Russes, ce qui est peu probable, eh bien, il faudrait quand même réfléchir à savoir si on laisse finalement l'Ukraine être envahie totalement, les Russes à commettre de nombreux crimes de guerre, crimes de génocide, comme ils en ont déjà perpétré, il faut le rappeler. C'est-à-dire que ceux qui attentent aux droits de l'homme aujourd'hui, ce sont les Russes, ce ne sont pas les Ukrainiens, ce sont pas les Européens, et il ne faut pas inverser les choses. Hein, c'est très important de le dire. Donc simplement, il est normal que l'Europe, les États-Unis réfléchissent aussi à la stabilité, à la sécurité du continent européen, et pour cela de disposer des forces, du matériel nécessaire pour pouvoir réagir en cas de nécessité. Il ne faut pas oublier que dans certains de ses discours, le président Poutine visait bien sûr l'Ukraine, mais aussi des déclarations quelque peu sibyllines sur les pays baltes ou sur d'autres pays proches de la frontière ukrainienne. Donc voilà, nécessairement, il faut se préparer. Et aujourd'hui, il faut le dire, notre état de préparation, nous avons des forces opérationnelles préparées qui s'entraînent, mais voilà, en termes de volume, face à une guerre d'attrition, nous nous sommes bien rendus compte que nous ne serions pas nécessairement à la hauteur. Donc nous avons encore beaucoup d'efforts et de progrès à accomplir dans ce domaine-là. Mais en aucun cas d'aller attaquer la Russie ou éventuellement d'envoyer des divisions entières sur le sol ukrainien.
Alors justement, sur le rôle défensif de l'OTAN, je voudrais, André Filler, qu'on revienne sur une question qu'on avait en début d'émission. La Russie a-t-elle raison de se méfier de l'OTAN si l'OTAN est présenté comme un outil de paix? Qu'est-ce qui fait qu'il est perçu, en tout cas il est développé dans les discours de Vladimir Poutine par la Russie comme étant une menace? On entend les mots d'encerclement, il y a quand même tout un discours de Poutine sur l'OTAN. Quelle est la part du vrai et du faux? Est-ce que la Russie a raison de se méfier de la présence de l'OTAN dans les différents pays autour du sien, André Filler?
À mon sens, pas du tout, et d'ailleurs... À mon sens, pas du tout. C'est véritablement une construction rhétorique et que le même président Poutine, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, ne partageait pas il y a encore quelques deux décennies. On peut dire que c'est beaucoup, mais c'est quand même le même homme qui est toujours au Kremlin. Donc non. Et puis une des preuves que la Russie n'avait absolument aucune appréhension réelle de la menace otanienne, c'est une preuve technique et militaire. C'est la très faible couverture du territoire russe par les systèmes de protection aérienne. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc évidemment, pour moi en tout cas, qu'il s'agit d'une rhétorique fondée sur une représentation qui est largement véhiculée par la Russie, qui n'a pas de fondement réel. Premièrement, et deuxièmement, aujourd'hui Vladimir Poutine, qui est toujours en train de chercher une sorte de projet national pour la Russie et qui ne l'a toujours pas trouvé d'ailleurs, essaie d'élaborer cette image d'un village gaulois, d'un état citadelle entouré d'ennemis, tandis que, comme disait tout à l'heure Monsieur Pacro, je crois, il ne faut pas oublier que c'est la Russie qui aujourd'hui est l'agresseur, et que si la Russie avait effectivement réussi à prendre Kiev en 7 jours, comme le prédisait d'ailleurs les services de renseignement américains, rappelez-vous, en février 2022, pardonnez-moi. Il est assez certain que Vladimir Poutine aurait pu menacer directement la Pologne et les États baltes, notamment en utilisant l'arme nucléaire comme un moyen de chantage. Donc, pour moi, non, il n'y a point de menace venant de l'OTAN. Bien au contraire, l'OTAN et les États de l'OTAN, pendant très longtemps, cherchaient à avoir une Russie forte, aussi bien les États-Unis que l'Union européenne. Ce n'est que maintenant qu'il y a une sorte de prise de conscience qu'on a peut-être un peu trop joué avec cette idée et que ce qu'on croyait être le moyen, c'est d'ailleurs les derniers articles de Kissinger, ce qui était les derniers qui étaient pendant longtemps le plus ardent défenseur de la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et qui, à la veille de sa disparition à l'âge de 101 ans, a rédigé un article qui disait ce que je pensais avoir été le moyen d'éviter la guerre, finalement l'a déclenché. Donc, ça ne pose plus de questions que ça ne donne de réponses. Ouais.
J'aimerais qu'on accueille Béatrix au 04 72 38 20 23. Bonjour Béatrix.
Bonjour.
Vous êtes à l'antenne, bienvenue.
Oui, alors moi je voulais rappeler la phrase de Churchill au moment de la guerre de 39, aux accords de Munich, lorsque il a dit « Vous avez choisi le déshonneur, et non seulement vous aurez le déshonneur, mais vous aurez aussi la guerre. » Peut-être pas exactement comme ça qu'il l'a dit, mais c'est ça que ça voulait dire, en tout cas. Et je pense qu'aujourd'hui, on a raison d'augmenter l'effort de guerre, parce qu'avec une personnalité comme celle de M. Poutine, malheureusement, on ne peut pas prévoir jusqu'où il va pouvoir aller. Et je pense qu'en face de lui, c'est quelqu'un qui comprend la force seulement, si j'ai bien compris, eh bien, il aura peut-être que d'avoir une force, une grande force en face de lui, le fera un peu réfléchir. Et je pense qu'on ne peut pas faire cette économie aujourd'hui. Et je suis d'une famille de militaires et nous avons beaucoup payé le prix du sang dans les différents conflits depuis 1870. Et je crois que voilà, il faut malheureusement prendre la mesure de ce qu'est ce monsieur.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup Béatrix pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Beaucoup de réactions ce matin, on n'aura pas le temps de tous vous entendre ou tous vous lire. André Filler, je me retourne vers vous. En ce moment, très concrètement, comment l'OTAN se prépare? Est-ce que les soldats s'entraînent? Est-ce qu'il y a des exercices préparatoires, des troupes?
Je ne suis pas au secret des dieux, ça, il faut demander ça aux officiers des états-majors respectifs. Je pense que il ne s'agit pas de toute manière d'envoyer des soldats au sol, encore une fois, tant qu'un état membre de l'OTAN n'est pas directement menacé ou attaqué, et les articles 4 et 5 ne sont pas appliqués. En revanche, l'envoi de nomenclature d'armes nécessaires en Ukraine, avec peut-être du personnel, je parle essentiellement de l'aviation et des missiles, le personnel nécessaire pour l'entretenir, voire pour le conduire, à mon sens, c'est quelque chose qui pourrait être en préparation aujourd'hui, encore de manière hypothétique. Mais plus la guerre prend justement la forme d'une guerre d'attrition, d'une guerre très longue, et dans cette guerre d'attrition, la Russie, avec son potentiel démographique, avec son complexe militaro-industriel, avec la détermination que disait notre auditrice de Vladimir Poutine, qui a besoin fatalement d'une victoire quelconque à présenter à sa population tout de même, je pense que là, dans les états-majors et dans les nations qui constituent l'OTAN et dans l'état-major de l'Alliance elle-même, il y a des préparatifs très sérieux qui visent à mettre fin à cette campagne.
Xavier Pacroix, je voudrais qu'on vous entende sur la place singulière de la France, puisque la France a... s'était retirée de l'OTAN pour une plus grande indépendance militaire par rapport aux États-Unis, mais après elle est revenue en 2009 avec la question du nucléaire en arrière-plan. Elle n'est pas membre du groupe des plans nucléaires de l'OTAN. Qu'est-ce que ça change? Quelle est la singularité de la France et est-ce qu'elle a encore une indépendance?
Et ce sera la dernière question pour vous.
Et donc
vous
une réponse
courte,
je comprends, Melchior.
Exactement.
Oui, alors ça sera une réponse courte. Alors tout d'abord, en 1966, la décision n'était pas un retrait de l'OTAN, mais simplement du commandement intégré. Nous y sommes revenus par une décision du président Sarkozy en 2009. Simplement, nous ne sommes toujours pas membre, et nous ne sommes pas membres du groupe de planification nucléaire, ben, tout simplement parce que nous avons notre propre dissuasion. C'est une dissuasion nationale qui concerne les intérêts vitaux français. Alors, il y a des réflexions éventuelles qui sont avancées régulièrement sur la possibilité d'étendre la dissuasion française. On l'a vu dans le traité d'Aix-la-Chapelle, il y a une piste qui était ouverte. Mais globalement, cette dissuasion concerne principalement la France et sa place dans l'Europe.
Merci beaucoup Xavier Pacrot. Je rappelle que vous êtes internationaliste, maître de conférence sur le campus parisien de la faculté de droit de l'Université catholique. Merci André Brigaud également d'avoir été avec nous. Vous êtes politologue, enseignant. Vous avez été enseignant à l'EHESS et à l'école militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Je rappelle l'organisation à laquelle vous faites partie aujourd'hui, c'est Justice et Paix, une réflexion encouragée par l'Église de France. Merci aussi André Filler, spécialiste de l'espace post-soviétique et notamment des Pays-Baltes, et vous exercez au sein de l'Université Paris 8. Merci infiniment à tous les trois pour ce grand sujet de l'OTAN.
Et merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille en studio également. Madeleine, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? De toute façon, on continue dans
on
la seconde
avec
partie
l'OTAN,
de Je pense, donc j'agis. L'OTAN passe publiquement. Comment mieux découvrir nos institutions? On en parle dans un instant avec vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite.